Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Les iPhone 17 vont peut-être mettre fin à une vieille habitude. Ces nouveaux modèles pourraient faire une croix sur la carte SIM physique. Fini donc l'insertion de cette petite puce dans les iPhones. Il ne resterait plus que l'eSIM, une SIM numérique que les opérateurs français gèrent de mieux en mieux. Est-ce un progrès ou bien des problèmes en vue? On va en discuter avec Christophe. Dans cet épisode, on va également revenir sur la panne nationale de SFR, sur l'arrivée de la publicité dans WhatsApp et sur le psychodrame entre le blogueur John Gruber et Apple. Nous sommes le samedi 21 juin, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Vous l'avez constaté si vous lisez Mac Génération, la WDC s'est terminée la semaine dernière, mais on continue d'explorer macOS 26, iOS 26 et tout le reste dans de nombreux articles. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ?
Salut Stéphane, salut tout le monde. Oui, ça va très bien et toi ?
Ça va bien, ouais. Il fait un peu chaud, mais ça va avec la clim au bureau.
Dis-moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ton conducteur, je crois que tu as oublié l'actualité la plus importante de la semaine.
Ah, c'est quoi ?
Ah bah, c'est la fin des Mac Intel, le dernier utilisateur que l'on connaissait à date en tout cas, vient enfin de passer sur un MacBook Air architecture Apple Silicon.
Oui, tu parles
Florian.
De Florian, voilà. C'était le dernier dans l'équipe à ne pas avoir de Mac Apple Silicon. Il en a enfin un joli MacBook Air 15 pouces. Il nous a dit que ça allait plus vite. Hein.
qu'est-ce qu'il va gagner en productivité avec Apple Intelligence maintenant ?
Ouais. En parlant des nouveaux systèmes, est-ce que tu as découvert des nouveaux trucs sympas dans iOS 26 depuis la semaine dernière ?
Bah, en lisant les articles qu'on a publiés, oui, je découvre plein de petits trucs que j'ai envie de tester. Alors la dernière chose qui a été découverte, alors que je n'ai pas pu tester, c'est la nouvelle sonnerie qui est cachée au fin fond de iOS 26 et qu'un utilisateur, à force de fouiller dans le système, a fini par trouver. Alors, est-ce que ça va être ça, la grande nouveauté de septembre ? Mais n'empêche qu'Apple a déjà démarré des keynotes en septembre en disant « Écoutez notre nouvelle sonnerie, hein, donc tout est possible
!» On va voir ça, ouais. En parlant de septembre, on va passer au premier sujet de la semaine. C'est un possible changement historique pour l'iPhone, puisque l'iPhone 17 Air et peut-être d'autres iPhone 17 pourraient abandonner les SIM physiques. Alors bon, vous savez peut-être qu'Apple vend déjà aux États-Unis des iPhones uniquement eSIM depuis quelques années, mais ce type de modèle devrait arriver dans d'autres pays, d'après The Information. Et il se trouve qu'en France, tous les opérateurs ont fait des progrès dans la prise en charge des eSIM. Alors Orange, Bouygues, SFR et Free permettent tous maintenant de convertir rapidement une SIM en eSIM et de transférer rapidement une eSIM entre deux iPhones. Il n'y a plus besoin de scanner le QR code qui est fourni par l'opérateur. On peut faire tout ça depuis les réglages de l'iPhone. C'est beaucoup plus pratique. Il faut dire que, par exemple, le transfert d'eSIM entre deux iPhones, c'était un inconvénient par rapport au SIM physique. Ce n'était pas forcément aussi simple que de mettre une carte SIM dans un autre iPhone. Alors, est-ce qu'un iPhone uniquement eSIM serait un progrès ou bien de potentiels problèmes en vue, Christophe ?
C'est un petit peu le sens de l'histoire, en tout cas. Ça permet à Apple de gagner un peu de place pour éventuellement mettre une batterie un peu plus grosse. Donc oui, j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne chose. Après, il y a malgré tout deux problèmes. Le premier, c'est que tous les opérateurs n'y sont pas encore. Par exemple, je suis chez FreePro. Et j'ai pas le droit de eSIM, j'ai une SIM bien traditionnelle.
C'est vrai que j'ai dit que tous les opérateurs prenaient mieux en charge les eSIM. Alors c'est les quatre gros français, mais les MVNO, les opérateurs mobiles virtuels par exemple, c'est pas le cas, ils gèrent pas le transfert rapide d'eSIM. Et puis t'as aussi les offres pro, comme tu le dis, qui sont un peu à part aussi, ouais.
Et c'est un peu un souci d'ailleurs, parce que les pros font partie aussi des premiers acheteurs lorsqu'un nouvel iPhone sort. Après, j'avais eu l'occasion de discuter avec le support technique de FreePro. Alors, on m'avait parlé peut-être qu'en fin d'année ou en début d'année prochaine. Mais alors voilà, ça peut être potentiellement un problème pour moi. Donc, on verra bien en tout cas. Voilà, et puis alors, le deuxième problème, enfin, qui n'en est plus un, mais c'est parce qu'avec le système d'Apple, a priori, c'est plus simple. Mais il m'est déjà arrivé de transférer par QR code une eSIM d'un appareil à l'autre. Ça n'a pas marché tout de suite. Il y a eu un certain délai, mais un délai, je ne sais pas, c'était entre 30 minutes et une heure. Ouais. C'était un dimanche matin. J'avais besoin d'un téléphone. C'était peut-être pas forcément le meilleur moment de le faire. En tout cas, c'était un petit moment de stress avant que ça marche. Hein. Donc oui, c'est sûr que, à mon avis, quand ils feront ça, il y aura potentiellement un peu plus de boulot pour le support des opérateurs et d'Apple. Et puis oui, il y aura toujours ce... Même si je sais qu'Apple travaille dessus, les gens qui ont, par exemple, un vieux terminal Android, le fait de devoir aller avec voir leur opérateur, de passer d'une SIM normale à une SIM. Bon, enfin après, c'est des transitions comme le milieu de la high-tech on a connu tant et tant. Donc, un petit peu de stress à court terme, mais après, ça devrait aller. Mais toi, par exemple, t'as des SIM ou pas?
Non, j'ai gardé une SIM physique parce que justement, tu parlais d'Android. Il m'arrive de tester des smartphones Android. Et transférer une eSIM d'un iPhone à un smartphone Android, c'est encore un peu compliqué parce que voilà, il faut passer par le QR code de l'opérateur dont tu parlais. Alors là, il y a iOS 26 et Android 16 qui vont prendre en charge le transfert rapide entre les deux plateformes. J'ai fait un test, c'est pas encore opérationnel et ça n'a pas été annoncé par Apple et Google, donc c'est voilà, sûrement encore en préparation, mais a priori ça va bientôt arriver, donc ça va simplifier les choses aussi parce que c'était le problème, c'était le transfert entre les deux plateformes. Par contre, j'utilise des eSIM à l'étranger quand je voyage hors de l'Europe. C'est très pratique pour souscrire un forfait international. Mais tu parlais aussi de la place gagnée par l'eSIM, puisque donc il n'y a plus de tiroir pour la carte SIM. Ça, c'est un truc quand même qui me surprend depuis quelques années. C'est que donc il y a des iPhones uniquement eSIM aux États-Unis, mais ils ont juste une cale, enfin c'est pas l'espace gagné, c'est l'espace perdu puisque Apple a retiré le tiroir de la carte SIM pour les iPhones américains, mais elle a rien mis à la place, donc ça me surprend un peu. Enfin c'est compréhensible puisque ces iPhones-là sont uniquement disponibles aux États-Unis, elle peut pas faire des iPhones vraiment différents pour le reste du monde, mais bon.
Voilà. Oui, je pense qu'ils attendent effectivement de généraliser ça. Après, il y a un autre problème par rapport à tout ce que tu dis, c'est la Chine. Je sais qu'en Chine, justement, ils n'arrivent pas à vendre des iPhones eSIM. Et d'ailleurs, c'est toujours l'une des spécificités lorsqu'on trouve des iPhones en import, notamment sur Rakuten. Des fois, il y a des modèles qui sont présentés. Vous pouvez mettre deux cartes SIM dedans.
Ouais.
Et ça veut dire que ce sont des iPhones chinois. Bon, alors peut-être qu'entre Chine et reste du monde, après Apple pourra sans doute trancher. Mais effectivement, il y a toujours cette chose-là. Mais alors, j'imagine, par exemple, qu'en tout cas, dans l'iPhone 17R, où a priori, l'espace est compté, là, j'imagine qu'il y aura une optimisation complète avec la batterie. Mais juste un truc pour revenir. Il y avait aussi un truc qui était aussi assez pénible avec les eSIM. C'est que lorsque tu faisais des fois des transferts et que tu passais par les opérateurs, il me semble que des fois, c'était payant, non?
Alors là, en fait, c'est la conversion de SIM en eSIM qui est souvent payante, ouais.
Ouais.
Que les opérateurs font payer comme si tu achetais une carte SIM normale. Et je crois que c'est toujours le cas pour certains.
Ouais. J'ai toujours trouvé ça très bizarre, mais bon.
Ouais. Et juste une dernière chose aussi, tu parlais de l'iPhone 17R. Samsung a sorti son Galaxy S25 Edge, je vais y arriver, c'est compliqué les noms entre tous les différents fabricants. Donc son smartphone ultra fin, lui, a un lecteur de carte SIM. Mais voilà, a priori, il n'est pas aussi fin que l'iPhone 17R, donc...
On verra, on verra tout ça.
Appelle Samsung. On va changer totalement de sujet, on va parler un peu de WhatsApp. L'application aux 3 milliards d'utilisateurs a récemment introduit une nouveauté pas vraiment attendue, puisque c'est de la pub. Et oui, même si le créateur de WhatsApp n'en voulait pas, l'application va finalement comprendre de la pub. Alors Meta essaye de se montrer rassurant. Les annonces n'apparaissent pas au milieu des discussions et elles ne sont pas basées sur les contenus des messages. Ces pubs surgissent uniquement dans la section Actu, qui est quand même consultée par 1,5 milliard de personnes chaque jour. Est-ce que c'était inévitable, cette irruption de la pub sur WhatsApp ?
Alors là, je crois que je vais avoir une opinion plutôt impopulaire, parce que je vais quand même plutôt défendre Meta et WhatsApp. Malgré tout, tout travail mérite salaire. Moi, je me sers quotidiennement de cette application. Alors, j'ai pas de publicité. Et justement, le fait de pas avoir de publicité en tant qu'utilisateur, ça m'interroge. Alors, il y a le fameux adage de Facebook, hein, c'est toi le produit à la fin. Alors, j'en sais rien, mais malgré tout, WhatsApp, j'ai beaucoup de mal à être sévère parce que c'est quand même un outil formidable. Voilà, tu parles, enfin, on se rend pas compte, quand même, 3 milliards de personnes. Bah, ça rapproche les gens, ça ne coûte rien. Enfin, l'app est plutôt, elle est plutôt pas mal.
Alors, au début, c'était, au tout début, c'était payant, c'était 99 centimes.
Ouais, si exactement, ouais, bon, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais là, voilà. Alors, pour moi, la vraie ligne rouge, elle n'est pas là. Meta a ajouté, effectivement, comme tu disais, une dimension sociale à WhatsApp et aussi une rubrique actualité. Que dans cette partie, elle met de la publicité comme elle le fait dans Instagram. Franchement, pour moi, c'est pas un problème. Enfin, je trouve ça même plutôt normal et c'est presque étonnant qu'elle ait attendu si longtemps avant de le faire. Par contre, si elle va plus loin et que je commence à avoir de la publicité entre deux messages, là, ça va clairement pas m'amuser. Bon, et alors une dernière chose, d'ailleurs, on a appris effectivement qu'entre-temps, la publicité dans WhatsApp en Europe, bah, ça n'arriverait pas avant l'année prochaine. Il faut tout d'abord discuter avec Bruxelles de tous ces sujets-là.
Ouais. Et au début de la semaine, de nombreux clients de SFR ont été privés de WhatsApp et même de tout Internet, puisque l'opérateur a subi une très grosse panne. Alors, c'est de lundi midi à lundi soir, tout le réseau mobile de SFR a été touché par un gros dysfonctionnement, empêchant les clients de se connecter au réseau. Ouais, inutile de préciser que ça a compliqué la vie de beaucoup de monde. L'opérateur a depuis indiqué que c'était un incident technique sur une plateforme de service du cœur de réseau, qui a donc entraîné ces déconnexions aléatoires. Mais on n'a toujours pas vraiment de détails supplémentaires à l'heure actuelle. Pour se faire pardonner, SFR va faire un geste. L'opérateur va offrir 100 gigas de data à tous ses abonnés. C'est vraiment le minimum, non ?
Oui, mais alors moi, ce qui me dérange avant tout, c'est effectivement le peu de communication de SFR par rapport à son problème. Et j'ai envie de dire que c'est une mauvaise habitude chez les opérateurs. On se souvient du siphonnage de données chez Free. Alors, Free a mis beaucoup de temps à communiquer et à communiquer à minima. Et enfin, voilà, je pense que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Les gens ont besoin de transparence. Surtout dans le contexte actuel où on peut se dire, alors, est-ce que c'est une simple panne? Est-ce que c'est une attaque d'envergure ou je ne sais trop quoi? Je pense que c'est très important de communiquer. Concernant le geste commercial, par contre, c'est plutôt bien joué. En plus, bon, 100 gigas avant les vacances. Voilà, je pense que c'est pas mal. Enfin, les gens vont, je pense, plutôt accueillir assez favorablement ce geste. Et puis, ils ont été assez réactifs. Ils n'ont pas attendu que la grogne monte trop avant de l'annoncer. Voilà, alors par contre, niveau timing, c'est quand même pas top. Hein. Essayer de redorer son blason. Ouais. Là, voilà, ça tombe plutôt mal. Et puis, alors là, on a eu quand même des articles où... il y a des gens qui, voilà, on est en période de bac et tout ça, qui se sont retrouvés pendant une journée, enfin, pendant peut-être la pire des journées sans réseau, et ça leur a joué deux vilains tours, et voilà, ça permet de se dire que bah, sans connexion cellulaire, bah, parfois, on est bien peu de choses.
On n'est pas grand-chose, ouais, ouais. On va terminer le tour de l'actu en évoquant le psychodrame entre John Gruber et Apple. Alors, un petit rappel des faits est nécessaire. En mars, peu de temps après l'annonce du retard du Siri plus personnel, le célèbre blogueur américain avait publié un billet cinglant à l'encontre d'Apple. Il accusait notamment l'entreprise d'avoir présenté à la WWDC 2024 des fonctionnalités qui n'étaient pas réellement opérationnelles à l'époque. Alors, dernièrement, à l'occasion de la WWDC 2025, Federighi et Joswiak ont démenti cette accusation, tout en étant forcé de reconnaître que le développement des nouveautés ne s'était pas passé comme prévu. Et pour en revenir à Gruber, il avait l'habitude de faire une émission avec des dirigeants à la WWDC, sauf que cette année, ceux-ci ont décliné l'invitation parce qu'ils n'étaient pas contents de son billet de blog. Au bout du compte, le blogueur estime qu'il est sorti grandi de cette agitation et que c'est Apple qui a terni son image. Est-ce que tu penses vraiment qu'Apple s'est dévalorisé en déclinant son invitation ? Parce qu'après tout, on peut dire qu'il n'y a rien qui les oblige à participer à son show.
Non, mais dévaloriser le terme est un peu excessif, mais ça montre surtout la façon dont Apple traite la presse. T'es gentil avec moi, je suis gentil avec toi, t'es pas gentil, je fais la tête. Alors, si j'étais mauvaise langue, là, avec ce prisme, on comprend quand même mieux la passion d'Apple pour les influenceurs et les youtubeurs qui sont autrement plus lisses que John Gruber. Alors, ça nous est arrivé d'avoir des problèmes avec Apple, alors pas dans de telles proportions, mais on a payé parfois pendant des mois et des mois certaines positions qui ont déplu. Et d'ailleurs, c'était des positions... Alors, j'arrive plus à me souvenir, mais il y a 2-3 ans, je sais pas si tu te souviens, on avait écrit un truc et ça avait été assez mal vécu, peut-être que c'était une rumeur qu'on avait publiée, enfin, j'en sais rien. Mais voilà, à la fin, ça s'était transformé avec moins de prêts, moins d'invitations. Alors, on n'est pas souvent invité par Apple.
De toute façon, oui, on n'est pas invité à WWDC. Donc,
non, mais de temps en temps, ils font une conférence et on a l'impression, des fois, de jouer un petit peu les bouches-trous, de dire, ah ben voilà, il n'y a personne qui veut venir à cette conférence sur la sécurité. Si vous voulez y participer, on est là. Je suis d'accord avec l'autre aspect de la déclaration de Gruber, parce que je veux dire que ça renforce son travail, ça renforce notre travail. Moi, j'ai connu des éditeurs, alors en France, hein, être dans les petits papiers d'Apple, c'était un objectif, une mission. Mmh. Et ça s'est même transformé, enfin, il y a même des gens qui se disent, je vais peut-être essayer d'embaucher tel ou tel journaliste parce qu'ils s'entendent bien avec Apple. Je trouve ça pas très très sain. Alors, en même temps, enfin, on l'a également dit, ça nous dessert aussi un petit peu, notamment avec les tests, où on arrive, nos tests paraissent 4, 5, des fois une semaine plus tard que par rapport à la concurrence, voilà. Donc c'est toujours un peu, effectivement, un peu frustrant. Mais voilà, et alors, je trouve que le fait de bouder, c'est un peu petit joueur. Moi, j'aurais été responsable d'Apple. Eh ben, je serais allé au show de Gruber et je serais rentré dedans là en lui disant, non, là, mec, t'as raconté des conneries. C'est pas vrai du tout. Le Siri, il existait bien, mais bon, par contre, il était dans un état qui faisait qu'on l'a pas mis en libre accès à la presse, histoire de pas avoir de feedback négatif. Alors, la question elle reste d'ailleurs ouverte. Est-ce que c'était une vraie démo ou pas, qu'Apple nous a montré pendant ce keynote-là? Quoi qu'il en soit, Apple peut faire la tête, mais elle a quand même retenu pas mal de leçons du keynote de 2024, hein, quand on a quand même eu la semaine dernière un keynote qui était quand même totalement différent. Hein. Donc voilà, je sais pas.
Oui, et puis il n'y a pas des fonctions qui sont prévues pour beaucoup plus tard dans l'année. Vraiment, tout va arriver à peu près en septembre. Ouais. On voit aussi ils ont fait attention à ça. Eh ben, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bon week-end à tous.
Bon week-end à tous, et puis on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de Veille. Salut à tous.